18. Ce fut Alec Pellé qui vint lui ouvrir quand il frappa la porte et qui lui fit traverser le salon jusque dans la cuisine. De nouveau, Ralph entendit les Animals venant du premier étage. Cette fois, ils interprétaient leur plus grand succès. « It's been the ruin of many a poor boy », gémissait Eric Burdon. « And God, I know I'm one ». Convergence, pensa-t-il. Le mot de Jenny. Marcy et Howie Gold étaient assis à la table de la cuisine et buvaient du café. Il y avait une autre tasse à la place occupée par Alec. Mais personne ne proposa à Ralph de lui en servir une. « J'ai pénétré dans le camp ennemi », pensa-t-il, et il s'assit. « Merci de me recevoir. » Au lieu de répondre, Marcy prit sa tasse d'une main un peu tremblante. « C'est très douloureux pour ma cliente, » dit Howie. « Alors soyez bref. Vous avez dit à Marcy que vous vouliez lui parler. »«
Non, qu'il devait me parler, » rectifia Marcy. « Voilà ce qu'il a dit. »
« Je le note. Eh bien, inspecteur Anderson, de quoi deviez-vous lui parler? Si vous venez vous excuser, allez-y. Mais sachez que nous nous réservons le droit d'entreprendre des démarches judiciaires. »
Ralph n'était pas encore prêt à faire des excuses. Aucune de ces trois personnes n'avait vu la branche ensanglantée enfoncée dans l'anus de Frank Peterson. Lui, oui.
« Un fait nouveau est apparu, » confia-t-il. « Ce n'est peut-être pas capital, mais cela pourrait peut-être suggérer quelque chose sans que je puisse dire quoi exactement. Ma femme m'appelle ça la convergence. »«
Pourriez-vous être un peu plus précis ?» demanda Howie.
Il s'avère que la camionnette ayant servi à enlever le jeune Peterson a été volée par un garçon à peine plus âgé que la victime elle-même. Ce gamin s'appelle Merlin Cassidy. Il voulait fuir un beau-père violent. Au cours de sa fugue entre l'État de New York et le sud du Texas, où il a finalement été arrêté, il a volé plusieurs véhicules. Il a abandonné la camionnette à Dayton, dans l'Ohio, en avril.
Marcy, Madame Maitland, votre famille et vous étiez à Dayton à cette époque.
Marcy portait sa tasse à ses lèvres. Elle la reposa bruyamment.
Ah non, vous ne mettrez pas ça sur le dos de Terry. Nous avons fait l'aller-retour en avion. Et excepté le moment où Terry est allé voir son père, nous sommes tous restés ensemble. Il n'y a rien à ajouter. Sur ce, je pense que vous devriez vous en aller.
Oh là, dit Ralph. On a très vite su que c'était un voyage en famille et que vous aviez pris l'avion. Dès qu'on a commencé à s'intéresser à Terry, quasiment. C'est juste que... Cela ne vous paraît pas étrange? La camionnette se trouve là-bas en même temps que vous. Puis elle réapparaît ici. Terry m'a affirmé qu'il ne l'avait jamais vu, et encore moins volé. J'ai envie de le croire. On a retrouvé ses empreintes partout à l'intérieur, mais malgré tout, j'ai envie de le croire. Et j'y parviens presque.
J'en doute, dit Howie. N'essayez pas de nous embobiner.
Est-ce que vous me croiriez plus facilement? Est-ce que vous me feriez un peu confiance, même si je vous disais que nous avons la preuve matérielle que Terry se trouvait à Cap City? Ses empreintes sont sur un livre vendu au kiosque de l'hôtel, et un témoin l'a vu prendre ce livre à peu près au moment où Frank Peterson se faisait enlever.
« Vous plaisantez !» s'exclama Alec Pellé.
Il semblait presque choqué.
« Non. »
Bien que le dossier soit désormais enterré, comme Terry lui-même, Bill Samuel serait furieux s'il apprenait que Ralph avait parlé de ce livre à Marcy et à son avocat. Mais il était bien décidé à repartir d'ici avec des réponses.
« Nom de Dieu !»
lâcha Alec.
« Donc, vous savez qu'il était là-bas ? »
s'écria Marcy. Des taches rouges marbraient ses joues.
« Vous le savez forcément !»
Ralph ne voulait pas s'aventurer sur ce terrain. Il y avait déjà passé trop de temps.
« Terry m'a parlé de ce voyage à Dayton la dernière fois que je l'ai interrogé. Il m'a dit qu'il avait envie de rendre visite à son père, mais il a prononcé le mot « envie » en faisant une drôle de grimace. Et quand je lui ai demandé si son père vivait là-bas, il m'a répondu « Si on peut appeler ça vivre, qu'est-ce que ça signifie ?»«
Ça signifie que Peter Maitland est atteint de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé », expliqua Marcy. « Il est à l'Institut de la mémoire Iceman, un département du Kindred Hospital.
Je vois. C'était dur pour Terry d'aller lui rendre visite.
Très dur.
Marcy se détendait légèrement. Ralph se réjouissait de constater qu'il n'avait pas perdu tout son savoir-faire, même si ce n'était pas comme se retrouver dans une salle d'interrogatoire avec un suspect. Howie et Alec Pellé demeuraient aux aguets, prêts à faire taire Marcy s'ils sentaient qu'elle s'apprêtait à poser le pied sur une mine.
Mais pas uniquement parce que son père ne le reconnaissait plus. Cela faisait bien longtemps qu'il n'entretenait plus de relations.
Pour quelle raison ?
« Cela a-t-il un rapport quelconque avec notre affaire, inspecteur ?»
demanda Howie. « Je ne sais pas. Peut-être que non. Mais puisque nous ne sommes pas au tribunal, maître, si vous laissiez votre cliente répondre à cette foutue question ?»
Howie se tourna vers Marcy et haussa les épaules.
« À vous de voir. » Terry était l'enfant unique de Peter et Melinda. Il a grandi ici, à Flint City, comme vous le savez. Et il y a toujours vécu. Sauf durant les 4 années passées à l'Ohio State University.
Où vous l'avez connu.
Exact. Bref, Peter Maitland travaillait pour la Cherry Petroleum Company, à l'époque où cette région produisait encore une importante quantité de pétrole. Il est tombé amoureux de sa secrétaire et a divorcé. Cela a provoqué de vives rancœurs, et Terry a pris le parti de sa mère. Terry a toujours été attaché à l'idée de loyauté, même enfant. Il voyait son père comme un menteur, ce qu'il était évidemment, et toutes les tentatives de Peter pour se justifier ne faisaient qu'envenimer les choses. Pour faire court, Peter a épousé sa secrétaire, Dolores de son prénom, et a demandé sa mutation au siège de la compagnie.
Situé à Dayton.
Exact. Il n'a même pas essayé d'obtenir la garde alternée. Il savait que Terry avait fait son choix. Néanmoins, Melinda insistait pour que Terry aille le voir de temps en temps, affirmant qu'un garçon avait besoin de connaître son père. Alors Terry obéissait, mais uniquement pour faire plaisir à sa mère. Il a toujours considéré son père comme un lâche qui avait pris la fuite.
Howie intervint.
Ça correspond bien au Terry que j'ai connu.
Melinda est décédée en 2006, crise cardiaque. La seconde épouse de Peter est morte 2 ans plus tard, d'un cancer du poumon. Terry a continué à se rendre à Dayton 1 ou 2 fois par an, en mémoire de sa mère. Et il a toujours gardé des rapports courtois avec son père. Pour la même raison, je suppose. En 2011, je crois, Peter a commencé à perdre la tête. Il laissait ses pantoufles sous la douche au lieu de les mettre sous son lit. Les clés de voiture dans le réfrigérateur, etc. Comme Terry était son seul proche parent encore en vie, c'est lui qui s'est arrangé pour le faire admettre à l'Institut de la mémoire Iceman en 2014.
« Ce genre d'établissement, ça coûte cher, » fit remarquer Alec. « Qui paye ?»
Peter Maitland possédait une très bonne assurance. Dolores avait insisté. Il avait toujours été un gros fumeur et elle pensait certainement toucher le pactole à sa mort. Mais elle est partie avant lui. Tabagie passive, sans doute.
« Vous parlez comme si Peter Maitland était mort, » dit Ralph.
« C'est le cas ?»« Non, il vit toujours. »
Faisant écho délibérément aux paroles de son mari, elle ajouta
« Si on peut appeler ça vivre, il a même arrêté de fumer. C'est interdit dans ce service. »
« Combien de temps êtes-vous resté à Dayton lors de votre dernière visite ?»«
5 jours. Terry est allé voir son père 3 fois. »
« Les filles et vous ne l'accompagniez pas ?»«
Non, Terry ne voulait pas. Et moi non plus. »
Peter pouvait difficilement jouer le rôle du grand-père auprès de Sarah et de Grace. Et la petite n'aurait pas compris. Que faisiez-vous pendant ce temps-là ?
Marcy sourit.
À vous entendre, on pourrait croire que Terry passait un temps fou avec son père, mais pas du tout. Ses visites ne duraient jamais plus 1 heure ou 2. La plupart du temps, on était tous les 4 ensemble. Quand Terry se rendait à l'hôpital, on traînait à l'hôtel et les filles se baignaient dans la piscine couverte. Un jour, on est allé au musée toutes les 3 et un après-midi, je les ai emmenées voir un film de Disney. Il y avait un cinéma multisalle près de l'hôtel. On a peut-être vu 3 ou 4 films, tous ensemble. On a visité aussi le musée de l'armée de l'air et le Bundeshaft, un musée consacré aux sciences. Tous ensemble, là aussi. Les filles ont adoré.
Des vacances en famille, tout simplement, inspecteur. si ce n'est que Terry s'absentait quelques heures pour accomplir son devoir filial.
Et peut-être voler une camionnette, pensa Ralph.
C'était possible. Merlin Cassidy et la famille Maitland auraient pu se trouver à Dayton au même moment, mais c'était tiré par les cheveux. Et puis, restait la question de savoir comment Terry avait pu ramener la camionnette à Flint City. D'abord, pourquoi se serait-il donné cette peine? Il y avait un tas de véhicules à voler dans les environs de Flint City. La Subaru de Barbara Nearing en était la parfaite illustration.
« Vous avez certainement pris plusieurs repas à l'extérieur, non ?» demanda Ralph.
Oui se pencha en avant en entendant cette question, sans intervenir.
« On faisait souvent appel au room service. Sarah et Grace aimaient beaucoup ça.
Mais on prenait des repas dehors aussi, bien sûr. Surtout au restaurant de l'hôtel, si on peut appeler ça « dehors ».
Êtes-vous allé dans un endroit baptisé Tommy et Tuppence ?
Non.
Un restaurant avec un nom pareil, je m'en souviendrai. Un soir, on a mangé au IHOP. Et deux fois au Cracker Barrel, je crois.
Pourquoi ?
Comme ça, répondit Ralph.
Le regard que lui adressa Howie indiquait qu'il n'était pas dupe. Mais là encore, il ne dit rien. Alec, lui, demeurait impassible, les bras croisés.
Ce serait tout ? Demanda Marcy. « J'en ai assez de toute cette histoire. Et de vous ? S'est-il passé une chose inhabituelle durant votre séjour à Dayton ? N'importe quoi, une de vos filles qui se serait perdue un court instant, Terry qui aurait rencontré un vieil ami, ou bien vous ? Un colis que vous auriez reçu ?
Une soucoupe volante ?
Ironisa Howie.
« Un homme en imperméable qui envoie un message codé ? Ou les Rockets qui dansent sur un parking ?
Vous ne m'aidez pas, maître. »
« Croyez-le si vous voulez, mais j'essaie de contribuer à la solution. »«
Non, rien, »
répondit Marcy. Elle se leva pour rassembler les tasses.
Terry est allé voir son père. On a passé de bonnes vacances et on est rentré en avion. On n'est pas allé chez Tommy machin chose et on n'a pas volé de camionnette. Alors, je vous prie de bien vouloir.
« Papa s'est coupé. »
Tous les regards se tournèrent vers la porte. Sarah Maitland se tenait sur le seuil de la cuisine, le teint pâle, beaucoup trop maigre dans son jean et son t-shirt des Rangers.
Sarah, qu'est-ce que tu fais ici ?
Marcy déposa les tasses sur le comptoir et se dirigea vers sa fille.
Je vous ai demandé à toi et à ta sœur de rester là-haut tant que nous n'avions pas fini de parler. Grace s'est endormie. La nuit dernière, elle n'a pas fermé l'œil à cause de ses stupides cauchemars et de cette histoire d'homme qui avait des pailles à la place des yeux. J'espère que ça ne va pas recommencer ce soir. Si elle se réveille, tu devrais lui donner un peu de Benadryl. Je suis sûr qu'elle va bien dormir. Allez, remonte dans ta chambre.
Mais Sarah refusa de bouger. Elle regardait Ralph. Non pas avec le mépris et la méfiance de sa mère, mais avec une sorte d'intense curiosité qui le mettait mal à l'aise. Il eut du mal à soutenir son regard.
Ma maman dit que vous avez fait tuer mon papa. C'est vrai ? « Non, » répondit-il. Et les excuses jaillirent enfin. Et presque sans effort, à son grand étonnement. « Mais je suis un peu responsable et je le regrette profondément. J'ai commis une erreur que je garderai en moi toute ma vie. »«
Tant mieux, »
répondit Sarah. « Peut-être que vous le méritez. »
Elle s'adressa à sa mère.
« D'accord, je remonte. Mais si Grace se met à hurler en pleine nuit, j'irai dormir dans ta chambre. »
« Avant que tu partes, Sarah, peux-tu me parler de cette coupure ?» demanda Ralph.
C'est arrivé quand il est allé voir son père. Une infirmière l'a soigné tout de suite. Elle lui a mis de la bétadine et un sparadrap. Rien de grave. Il a dit que ça faisait pas mal. « Allez, monte dans ta chambre, » ordonna Marcy.
« Ok. »
Ils la regardèrent marcher vers l'escalier, pieds nus. Arrivée en bas des marches, elle se retourna.
Le restaurant Tommy et Tuppence était juste en face de notre hôtel, de l'autre côté de la rue. J'ai vu l'enseigne quand on est allé au musée avec la voiture de location.
19. Parlez-moi de cette coupure, dit Ralph. Marcy posa les mains sur ses hanches.
Pourquoi ? Pour en faire tout un plat ? Sans raison ?
Il vous pose cette question parce qu'il n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, dit Alec. « J'avoue que ça m'intéresse, moi aussi.
Si vous êtes trop fatigué, dit Howie.
Non, ça va. Je vous le répète, ce n'était rien du tout, une simple égratignure. Est-ce arrivé la deuxième fois qu'il est allé voir son père ?
Elle baissa la tête, sourcils froncés.
Non, c'était la dernière fois, parce qu'on a repris l'avion le lendemain matin. En sortant de la chambre, Terry a percuté un aide-soignant. Aucun des deux ne regardait où il allait, a-t-il dit. Normalement, ça se serait limité à un choc et des excuses, mais manque de chance, un agent d'entretien venait de laver le sol et s'était encore mouillé. L'aide-soignant a glissé et a voulu se retenir à Terry, mais il est tombé quand même. Terry l'a aidé à se relever, il lui a demandé si ça allait et le gars a répondu oui. Terry était déjà au milieu du couloir quand il s'est aperçu que son poignet saignait. L'aide-soignant avait dû le griffer en essayant de s'accrocher à lui. Une infirmière a désinfecté la griffure et lui a fait un pansement, comme l'a dit Sarah. Fin de l'histoire. Alors, vous êtes plus avancé maintenant ?
Non, avoua Ralph. Toutefois, ce n'était pas comme la bretelle de soutien-gorge jaune. Il sentait qu'il y avait un lien, une convergence, pour reprendre le mot de Gianni, qu'il pouvait déterminer. Mais pour ce faire, il aurait besoin de l'aide de Yunel Sablo. Il se leva. « Merci de m'avoir reçu, Marcy. » Elle le gratifia d'un sourire glacial. « Madame Maitland, je vous prie. » Message reçu. « Et vous, Howard, merci d'avoir organisé cette entrevue. » Il tendit la main à l'avocat. Elle demeura suspendue dans le vide quelques secondes, jusqu'à ce que Howie finisse par la serrer. « Je vous raccompagne, » déclara Alec. « Je peux retrouver le chemin. »
J'en suis sûr, mais comme je vous ai fait entrer, ça me semble logique.
Ils traversèrent le salon, puis le petit vestibule. Alec ouvrit la porte. Ralph sortit et fut surpris de voir Alec sortir derrière lui et de l'entendre demander.
« C'est quoi cette histoire de coupure ?»
Ralph l'observa.
« Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. »«
Je crois que si. Votre visage a changé. »
Un petit problème de reflux gastrique. Ça m'arrive souvent, d'autant que l'ambiance était plutôt tendue. Mais moins difficile à supporter que le regard de cette fillette. J'avais l'impression d'être un insecte sous un microscope.
Alec referma la porte derrière eux. Ralph se trouvait deux marches plus bas, mais compte tenu de sa grande taille, les deux hommes se trouvaient presque à la même hauteur.
« J'ai quelque chose à vous dire, »
avoua Alec.
« Je vous écoute. »
Ralph se raidit.
Cette arrestation, c'était n'importe quoi. Du grand guignol. Je suis sûr que vous en êtes conscient maintenant.
Je crois que j'en ai déjà pris pour mon grade ce soir.
Ralph fit demi-tour pour s'en aller.
Je n'ai pas terminé.
Ralph se retourna, tête baissée, jambes légèrement écartées. Une posture de boxeur.
« Je n'ai pas d'enfant, » reprit Alec. « Marie ne pouvait pas en avoir. Mais si j'avais eu un fils de l'âge du vôtre, et si j'avais eu la preuve qu'un pervers sexuel avait joué un rôle important à ses yeux, qu'il avait même incarné un modèle, j'aurais peut-être fait la même chose. Ou pire. Ce que je veux dire, c'est que je comprends pourquoi vous avez perdu le sens de la mesure.
Très bien. » Ça ne m'aide pas à me sentir mieux, même, merci.
Si jamais vous changez d'avis au sujet de cette histoire de coupure, appelez-moi. Nous sommes peut-être tous dans le même camp.
Bonsoir, Alec.
Bonsoir, inspecteur. Prenez soin de vous.